Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça a changé de générique.
Le grand bleu.
Tout de suite, passion mère avec Charlie Donroux et Renan Cro.
Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, une édition spéciale avant l'été, voici de quoi vous sustenter pendant ces mois d'août et de juillet, et ce grâce aux conseils avisés de mes as de la série, mes queens et kings du game, Charlotte Bloom depuis Seattle. Bonjour Charlotte.
Ouais, carrément. Ouais. Salut.
Et Renan Cro, a.k.a. Sœur Molo Molito, en direct live tout de suite à côté de moi.
Nous sommes côte à côte, Charline, et il y a une charge érotique.
Mais ne nous touchons pas.
C'est vrai.
Parce qu'on respecte.
On est vraiment sur un désir refoulé qui est très très beau entre nous.
Et je vais arrêter ce moment gênant tout de suite, car vos recommandations étant très très nombreuses, je propose qu'on y aille de ce pas. Et débutons avec une recommandation commune, Search Party, saison 3 de Sarah Violet Bliss, Charles Rogers et Michael Showalter. Alors, je rappelle hein, le pitch de départ de
le
la pitchoun, saison 1.
La pitchoun.
Alors, je vais sûrement me vautrer sur la prononciation, car c'est ainsi que je suis. Alia Shawkat, on dit comme ça ?
Exactement.
Et Dory, jeune femme timide et frustrée, qui apprend la disparition de Chantal, une ancienne camarade de classe.
Look at us, we made it !
Okay. So, who told? Out with it.
What do you mean?
Obviously, one of us told the authorities.
It wasn't me.
It wasn't me.
What about Chantal?
What?
I think it was April.
It wasn't April.
Great, then it was Elliot.
How could it be me? I brought it up.
Dory, C.
We're
your lawyers.
I'm gonna close my eyes for a minute.
Dory, look at you in that cute prison jumpsuit. You're famous.
Why?
Your arrest was the most fabulous public arrest ever.
Could these hipsters be cold-blooded murderers?
This is just a huge misunderstanding.
How does it feel to be a viral sensation?
A case that's amassed international attention.
Come on, Dory, one for your fans.
Voici pour ce teaser de la saison 3. Et comme Patrick Bruel le dit souvent dans ses chansons et dans ses concerts, à vous!
Je ne veux pas déjà rebondir à ça et j'entends
rebondir
Charlotte.
Sur ça, parce que rebondir sur ça, à ça.
Je dis ce que je veux, c'est l'été post-confinement, Charline Roux. Charlotte Boom, je vous vois faire des signes, vous voulez prendre la parole, c'est ça?
Non, mais ça ne m'étonne pas du tout qu'on soit plusieurs sur ce choix de Search Party parce que je trouve que c'est une toute petite série qui est complètement irrésistible. C'est exactement ce dont on a besoin là maintenant parce qu'elle n'est absolument pas ancrée dans la réalité, dans la façon dont elle est écrite. Donc effectivement, Dory, dans la saison 1, a été obsédée par la disparition de Chantal.
Chantal, il faut dire que Chantal, comme ça. Qui est un personnage fabuleux.
C'est la sœur de Sylvie ou pas? Non, pardon.
Non, mais elle s'appelle Chantal.
Il n'y a que des personnages fabuleux dans cette série. Mais depuis, Chantal a été retrouvée, hein, on va rien spoiler en disant ça puisqu'on est à la saison 3. Ils ont fait beaucoup de conneries, Dory et
beaucoup,
sa bande.
Beaucoup, on va pas les, on va pas dire lesquelles.
3, non, on ne va pas dire lesquelles, mais la saison 3, c'est un peu la saison du payback.
C'est
merveilleux.
C'est merveilleux, oui. C'est une série qui vous hait, les jeunes. C'est une série qui vous déteste et ça fait un bien fou. C'est vraiment le procès des milléniaux, de la génération, je ne sais plus quoi, X, Y, Z. C'est vraiment cette sensation que la série a de regarder donc toute une génération, c'est-à-dire la génération des réseaux sociaux, la génération de Twitter, la génération d'Instagram, et de lui faire payer en fait une sorte de vide. Et donc c'est l'histoire de gens qui sont totalement vides et qui cherchent quelque part un sens à leur vie. Alors ils trouvent, Dory va trouver un sens à sa vie, on va pas trop révéler comment, et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, il y a Dostoïevski qui se ramène là-dedans. C'est Crime et Châtiment, en fait, d'un coup. C'est aussi glauque que drôle, parce que Charlotte dit que c'est feel good. Il y a des moments assez sordides, assez étranges, parce que justement, bah, c'est une claque dans la gueule à toute notre génération, c'est-à-dire qui s'incarne dans l'ego, qui s'incarne dans le reflet de soi-même, et qui tout d'un coup bah, se prend une tarte dans la gueule. C'est vraiment une série géniale. La saison 3 est peut-être la meilleure, je parle sous le contrôle de Charlotte Bloom.
Non, moi je préfère quand même la une, mais
tout de suite réagissez au 01 45 32 32. Ah, moi je préfère la 3, que je trouve vraiment fabuleuse, extrêmement bien construite et surtout structurée entre donc l'histoire de Dory et de son insupportable petit copain, et puis il y a deux autres personnages dont on n'a pas encore parlé qui sont les personnages comiques de la série et qui eux poussent le curseur. C'est vraiment c'est absolument fabuleux, mais aujourd'hui.
Et pourquoi tu préfères la une, toi, Charlotte?
Bah alors, c'est une petite faiblesse de ma part, et en plus j'ai spoilé, mais bon, c'était quand même il y a 3 ans. Il y avait l'enquête, c'est-à-dire il y avait quand même un but, et il y avait toute la transformation psychologique de Dory, qui est quand même effectivement au début un personnage timide, frustré, qui cherche sa place, et qui va la trouver un petit peu en devenant enquêtrice malgré elle. Et sa transformation, elle est folle, et cette actrice, Alia Shawkat, elle est vraiment...
géniale.
En plus d'être sublime, elle est excellente. Et elle incarne hyper bien cette transformation jusqu'à arriver à la Dory de la saison 3, qui est une raclure.
Oui, et en même temps qui est une raclure dont on voudrait qu'elle s'en sorte, en fait. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que la série joue justement sur ce vide en nous où on est pour ce personnage, alors que nous, on sait les vérités en question de la série et qu'elle ment. Et c'est assez... Vraiment, ça tient. Et il y a un personnage d'avocate dans cette saison 3. Mais c'est mon animal totem. On dirait une phrase de Perrine Kenson qu'on embrasse, mais c'est mon animal totem. C'est-à-dire que c'est une avocate qui n'a aucune compétence, si ce n'est d'avoir du swag. Et donc, elle est hyper swag. Et elle est géniale. Vraiment, elle est très, très drôle. Oui, j'ai dit
et
swag.
Et donc, vous aurez compris que si vous êtes jeune, cette série vous déteste, mais que du coup, on vous la conseille grandement. Cette saison 3 de Search Party est diffusée en France sur OCS City. Sur Prime Video, Renan, tu recommandes Dispatches from Elsewhere, de et avec Jason Segel. Série dans laquelle un groupe de gens ordinaires tombe sur un puzzle dissimulé sous le voile de la vie quotidienne. Tous vont être amenés à découvrir que le mystère remonte bien plus loin et plus
c'est
en profondeur que tout ce qu'ils
on
auraient pu
imaginer.
On dirait
une Olivier Chiabodo.
And now that I have your attention, I'll begin.
Welcome to the Jejun Institute.
We are purveyors of nonchalance and a myriad of innovative products designed to fill the void.
It is a very unique person who finds themselves in the chair in which you sit.
You've all been selected as agents of nonchalance. Behind this world, there is a world which has been hidden from you.
It's so, so cool.
And you are a key to unlocking our vision.
You must fight Clara!
Quite an elaborate hoax.
Such a nice story.
Thrilling.
I'm sorry, what do you mean hoax?
Une série avec également André Benjamin, alias Monsieur 3000 d'Outcast, Sally Field et l'immense Richard E. Grant. Pourquoi cette série, Renan Croix ?
Alors déjà, je tiens à dire que c'est vraiment très très mal ce que vous venez de faire, Charline Roux, à résumer cette série. C'est du sabotage, on dirait Olivier Chiabodo à Interville.
Écoutez,
du sabotage.
Moi je suis professionnelle, on me donne un dossier de presse avec un résumé.
Alors voilà, évidemment, sur le papier, ça ressemble à un très mauvais livre de Paolo Coelho.
Mais ceci étant, c'est vrai que c'est le pitch de départ.
Oui, mais en fait, c'est une série impitchable et difficilement racontable. Le principe, c'est que c'est adapté d'un documentaire sur le fameux Jejun Institute, qui a potentiellement réellement existé. Et ce documentaire, The Institute, raconte en fait comment une sorte de jeu de rôle IRL a obsédé des gens à Philadelphie, si je ne dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est que l'excellent Jason Segel, qu'on aime, qu'on adore... Et,
sans Sarah Rianova.
Exactement, 5 ans de réflexion. En fait, il s'en empare et il en fait une série en racontant, en imaginant les joueurs, ceux qui se sont pris dans ce monde-là. Et donc, le principe, c'est encore une fois dans la même chose que Search Party, c'est-à-dire l'ultra-moderne solitude, la société d'aujourd'hui, le vide qu'on a en nous. Ici, non pas rempli par le crime et l'ironie comme dans Search Party, mais par le merveilleux et la possibilité du merveilleux. Puisqu'au fond, donc, ces gens qui vont se croiser vont rentrer dans un jeu de pistes à l'échelle d'une ville, chacun avec des positions différentes. C'est-à-dire Jason Segel, par exemple, il attend que quelque chose se passe dans sa vie. Il y a un fabuleux personnage de femme trans qui est vraiment un rôle magnifique, où elle, justement, elle veut s'accomplir et elle pense que tout est un jeu et elle veut jouer avec le monde. Il y a Sally Field qui, elle, est en deuil et tout d'un coup pense que tout ceci est en fait une instrumentation artistique, que c'est une œuvre d'art. Et puis il y a donc le fameux Monsieur 3000, là, André Benjamin. Andrew Benjamin, qui lui pense que c'est un complot politique. Et donc ces quatre personnages-là vont se balader ensemble. On ne comprend pas toujours tout ce qu'on voit.
C'est marrant, ça se sent pas dans le pitch. Pardon.
Mais c'est d'une d'une beauté, d'une évidence. Enfin, il y a quelque chose, on rentre dans la série, on ne sait pas ce qui va se passer.
Est-ce drôle? Parce qu'on dit Jason Segel.
Non, c'est
priori,
pas drôle.
Ah,
c'est étrange. Ouais. En fait, le plus proche, mais ça va vous donner des boutons peut-être, Charline Roux, le plus proche, c'est Amélie Poulain, en fait. On pense beaucoup, beaucoup,
alors,
beaucoup.
Vous vous trompez complètement sur moi, Ronan Croux, sachez que j'adore Amélie Poulain.
Mais c'est ce qui fait que nous sommes amis, Charline Roux. On pense beaucoup à Amélie Poulain. Imaginez Amélie Poulain, et je sens. Charlotte Boum, je me trompe, vous n'êtes pas très Amélie Poulain.
Alors, je ne suis pas Amélie Poulain et je ne suis pas dispatchiste pour mes soeurs non plus. Donc, j'espère qu'on m'aime encore ici.
Ben oui, là, bien sûr.
Moi, oui, toujours. Renan, beaucoup moins, ça se voit.
Si. Si, si. Non, mais moi, j'ai trouvé ça, en fait, fabuleux de voir une série où je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est briquet de broc, c'est inventif, c'est étrange. Oui,
oh,
j'ai dit briquet de broc.
Le mec vient de passer de briquet de broc.
Mais tu as eu 60 ans ce matin.
C'est ça. Happy birthday to moi. Vivement la retraite et mes points retraite.
On aura compris que Renan Croix est quand même particulièrement misanthrope à l'endroit de la jeunesse, hein, puisqu'il vous conseille quand même des séries qui détestent la
alors,
jeunesse.
C'est pas sur
qui
des
en
jeunes
donne
gens.
Une image dégueulasse. Et dit briquet de broc. Déduisant ce que vous voulez.
Con de jeunes. Voilà. Je vous embrasse, les jeunes.
C'est con de mime.
Con de mime, c'est vrai.
C'est plus,
mais
ça.
Non, mais excusez-moi, Charlie, moi, je suis encore un jeune. Vous êtes déjà passé de l'autre côté.
Alors, c'est vraiment parce que je suis une personne polie publiquement que je ne vous dis pas que je vous emmerde, mais je le pense très fort. Et terminons avec votre dernier choix, Renan Croux.
On fait tout moi, d'un coup.
Non, mais après, ce sera Charlotte.
D'accord.
Le meilleur pour la fin, tu l'aurais bien mérité. Et enfin, vous conseillez Babylone Berlin de Tom Tykwer, saison 3 sur Canal+. Je n'ai pas mis de bande-annonce, mais was ist das, Herr Kroh?
Es ist eine... Bon, je ne sais pas le faire. Alors, on avait une série donc, qui détestait les jeunes, on a une série qui déteste les gens, et là, on a une série qui déteste l'humanité. Je crois qu'on est sur une thématique, je crois que ça dit beaucoup de moi.
Je crois qu'on est sur un homme sympathique.
On est sur quelqu'un qui va mal, et c'est moi.
Attends, t'as pas encore les choix de Charlotte.
C'est ça.
Tu vas rire.
Non, c'est plus sérieusement, peut-être que la série qu'il faut regarder cet été, parce qu'on a besoin de grandes fictions, de choses qui vous emportent, c'est ce fameux Babylone Berlin. La saison 3 vient d'arriver sur Canal+. Alors oui, c'est une série allemande. Et évidemment, quand on pense série allemande, l'ombre de Derrick plane, du renard, de
ta
Rex,
torte.
De ta torte, évidemment. Alors là, bon,
évidemment,
non. C'est la série la plus chère de l'histoire.
J'ai cru que tu allais dire c'est la série la plus chiante de l'histoire.
Non, c'est la série la plus chère de l'histoire de la production télévisuelle allemande et ça se voit à l'écran. Et pour vous donner une bonne raison, c'est produit et notamment en partie réalisé par quelqu'un qui s'appelle Tom Tykwer, qui a travaillé notamment sur Sense8.
Cour Lola Cour,
metteur en scène hyper formaliste. Et ça nous plonge en fait dans le Berlin post-Première Guerre mondiale, juste avant la montée en puissance des nazis, évidemment. Alors, c'est une série un peu déceptive pour ça. On se dit Babylone Berlin, l'entre-deux-guerres, la fête aux nazis. Eh ben non, les nazis, ils n'arrivent pas tout de suite. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous montre comment la société allemande fait monter petit à petit la question du nazisme. Mais pour ça, en fait, on rentre donc dans les pas d'un inspecteur qui s'appelle Gereon Rath, qui est un personnage génial, qui va rencontrer une jeune fille qui va vouloir l'aider. Et c'est ce duo-là qui est fabuleux. Et ils vont plonger au cœur de Berlin, et de Berlin comme Babylone. Il y a, au deuxième épisode, une scène de boîte de nuit. Avec
de cette saison-là ou
de la première, ouais, de la toute première. En fait, c'est vraiment la 1 et 2 fonctionnent comme une seule saison.
D'accord.
Comme ça a été diffusé sur une année entière en Allemagne, si je ne me trompe pas, et Canal+ l'a divisé en deux parties. Mm-hmm. Et il y a donc dans le deuxième épisode de la saison 1 une scène de boîte de nuit complètement folle où on a une sorte de chanteur-chanteuse, on ne sait pas très bien, qui ressemble un peu à David Bowie, c'est assez fabuleux.
Ouais.
Et c'est vraiment ça, cette série, c'est-à-dire la société. Vraiment, c'est une sorte de mélange entre le meilleur des polars d'aujourd'hui avec une sorte de feuilletonesque à la Balzac où il y a toutes les couches de la société, tous les personnages. On rentre dedans, il y a plein de personnages, plein d'actions, il y a des scènes vraiment folles. Moi, j'ai regardé les deux premières saisons pendant le confinement. Vous vous souvenez de cette période, le confinement?
Tout
le monde a oublié. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vraiment, la saison 3 qui vient de commencer sur Canal, qui s'intéresse plutôt à la question du milieu du cinéma et notamment la fameuse UFA, les décombres de la société de production allemande et l'arrivée des films nazis. C'est passionnant, c'est vénéneux, c'est formidable. Babylone Berlin.
Sur Canal+. Alors pour toi, Charlotte, on va commencer avec Dirty John d'Alexandra Cunningham. C'est une série anthologique qui retrace de vrais faits divers qui ont défrayé la chronique. Et dans la saison 2, intitulée Betty, Amanda Pitt et Betty, mariée à Dan Broderick, Christian Slater, rencontrés au lycée, ils s'aiment et puis un jour ils divorcent. Quelques années plus tard, alors qu'il est remarié, Dan et sa nouvelle femme vont être assassinés par Betty.
Tout simplement. C'est une série anthologique un peu à l'américaine.
On va envoyer la Charlotte, on va envoyer la bande annonce.
I wanted a husband and a family. Dan needed a wife that could wait on him. I would have been treated better if I'd been a dog and served my master.
I'm amazed it only took one bullet to kill Dan Broderick.
I was married for 16 years. Then he turns 40 and he's walking out with a 19-year-old and a sports car.
I've been robbed of my children.
Court order.
How am I supposed to see my kids?
Dan had me committed to a psych ward. I'm not the crazy one, he is.
Dites-moi, Charlotte, on serait pas face à une série sur la félicité maritale?
Oui, et sur la beauté masculine aussi. Non, mais en fait, moi, ce que j'adore dans Dirty John, la saison 1, c'était également un fait divers. Ouais. Et là, mais bon, qui finissait pas dans le meurtre, enfin, double meurtre pour le coup. Mais moi, ce que j'aime dans cette série Dirty John, c'est que c'est toujours raconté du point de vue de la femme. Et que ça fait quand même deux fois qu'on nous explique et qu'on prévient les femmes de comment on peut être détruite par un homme et détruite par amour. Sans évidemment aller jusqu'à l'extrême où va Betty. Je trouve que la série raconte hyper bien, puis en plus elle raconte bien des époques aussi, parce qu'il se marie dans les années 60 et Betty pète un énorme câble quand son ex-mari se remarie avec une petite jeune, hein, parce qu'évidemment c'est sa secrétaire. On spoilera en racontant ça, parce que c'est pas du tout ça en fait le fond de la série, c'est de voir comment Betty évolue. Et on va jusqu'aux années 80, donc on voit les évolutions de la société, on voit toutes les conversations de Betty avec ses copines dans un milieu bourgeois où le seul problème qu'on a, c'est combien d'argent on a sur son compte et est-ce qu'on fait partie de la bonne société et est-ce qu'on est invité aux bonnes fêtes, etc. C'est un milieu, en fait, peut-être mis à part Succession dernièrement, qu'on voit de moins en moins, ouais. Tant mieux, j'ai envie de dire, cette bourgeoisie-là. Mais là, elle est montrée de façon à rappeler que, en fait, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est complètement banal. Mais en fait, cette femme-là, quand elle perd son mari, elle ne perd pas que son mari. Déjà, c'est un mari à qui elle a permis d'avoir la carrière qu'il a, parce que toutes les femmes de cette époque, elles restent à la maison avec les mômes. Pendant que Peter, il va se faire une carrière. Et là, en l'occurrence, le mari, c'est une double carrière. C'est un petit génie. Et on montre beaucoup ce que perd une femme, ce que perdait une femme à l'époque.
Elle est déclassée.
Sortait, son statut social, elle n'existe plus. Et Amanda Pitt, pour jouer cette femme qui se perd elle-même, qui ne sait même plus qui elle est, elle est sensationnelle. J'espère vraiment qu'elle aura des nominations quelque part. Parce que elle est magnifique.
C'est un peu la version pour premier degré de, tu sais, cette série sur M6, Why Woman Kills. Je sais pas si ça vous parle.
Oui, mais Why Woman Kills, c'est très 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 acidulé.
Oui, voilà, c'est ça. Et là, on est sur la version plus violente, plus crue, plus journalistique presque que Why Woman Kill. C'est un peu un petit bonbon, voilà. Mais c'est vraiment dans cette idée-là aussi. Il y a un courant là, il y a un courant. Est-ce que dit Charlotte très justement de relecture et de, on sort le fait divers et on s'intéresse plus à simplement le fait divers, mais à ses pendants intimes, sociologiques, ce que ça raconte aussi des rapports hommes-femmes. Enfin, c'est pas très rigolo quand même, Charlotte. On est sur un truc.
Non, c'est pas. Mais moi, je suis pas
une rigolote, toi, la galéjade, c'est fini. Elle dit joyeuse drille. Toi, tu dis rien. Alors moi, je dis voilà.
Ouais, mais c'est Charlotte, elle a le droit.
Ouais, c'est bon.
On est en train de parler de Dirty John, c'est normal, c'est tu vrai. N'auras pas le dernier mot, Renan Crowe. Mm-hmm. Sauf erreur de ma part, la saison 2 est en diffusion sur Bravo et la première est à retrouver sur Netflix. Je pars sous votre contrôle.
Pour ceux qui vont regarder la saison 1 maintenant, il faut savoir qu'il y a un documentaire sur Netflix qui après montre les vrais personnages. Et alors moi, j'adore ça. Hein. J'adore quand on me raconte une histoire en fiction et qu'après, j'ai le docu avec les vrais gens. Ça n'arrive pas souvent. Et c'est indispensable de regarder le docu derrière.
T'as essayé Titanic comme film? Tu verras, il y a plein de docu.
Mais tu sais quoi, mon petit chat? Je n'ai pas vu Titanic.
Non.
Voilà. Et voilà.
Alors à la fin, le bateau, il coule. Allez, voilà.
Et super.
Mais non.
Alors Charlotte, tu nous le disais, comme tu aimes tout ce qui est l'humour, la galéjade, tout ce qui est LOL, quoi.
La poudre de perlimpinpin.
Tu nous proposes aussi Manhunt Deadly Games, dispo sur Netflix, une série d'anthologie encore, mais axée à chaque saison sur des chasses à l'homme, les plus importantes sur le sol américain. Et cette deuxième saison s'attache au cas Richard Jewell. Cameron Britton, qui jouait déjà Ed Kemper dans Mindhunter, joue le dit Jewell. Pourquoi cette série?
Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pensé aux gens qui, comme nous, sont retournés au cinéma dès que ça a rouvert et qui ont vu le film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell, et qui ont envie de voir cette histoire en longueur. Parce que le film, qui est très bien, par ailleurs, résume de manière drastique. Hein, il s'est passé des milliards de choses. Et il y a notamment l'engagement d'une journaliste qui est survolée dans le film et qui est passionnant dans la série sur la façon dont les médias ont récupéré cette histoire. Aussi, dans la série, la mère de cet homme, Richard Jewell, qui en fait a déjoué les attentats d'Atlanta pendant les Jeux Olympiques et qui ensuite a été accusé d'avoir lui-même posé la bombe qu'il avait retrouvée. Sa mère est jouée par Judith Light, qui est moi maintenant une des actrices que j'aime le plus voir et retrouver.
Et qui est également dans la saison 2 de The Politician.
C'est Madame Esservie, oui. On est d'accord.
Et oui, Madame, et puis qui est dans Transparente également.
Ouais.
Et cet acteur incroyable qui joue très peu dans Mindhunter saison 1, parce qu'effectivement, il joue Kemper.
Qui est difficile à oublier.
Mais moi, c'est mon moment préféré de tout Mindhunter, c'est ce mec-là. Et depuis, à chaque fois qu'il est dans un truc, je le cherche et je regarde. Et là, j'ai pas été...
Stockeuse, on est sur une stockeuse. Prochaine saison sur Charlotte Bloom. Hein.
Ouais, je sais pas encore qui je vais tuer, je suis en train de chercher, si ça t'intéresse. Non, mais et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est toujours des histoires qu'on connaît ou dont on a entendu parler, qui sont dans un coin de notre tête, et qu'on nous explique enfin, et de la même façon que Dirty John va nous raconter la société américaine, cette fois-ci, Deadly Games va nous raconter comment travaillent les médias. C'est très intéressant que la journaliste qui ait dénoncé cette histoire et qui ait enfoncé Richard Jewell soit une femme, parce qu'on te montre aussi que quand t'es une femme dans un milieu où c'est difficile d'accéder au poste supérieur, bah t'en fais trop, tu fais des erreurs, tu donnes tout, tu sacrifies ta vie, t'es prêt à mentir, t'es prêt à faire des choses improbables juste pour être respectée et être écoutée. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la version série, c'est que ce rôle d'avocate est merveilleux en fait. Et puis aussi sans spoiler, l'histoire de Richard Jewell, c'est pas que l'histoire de Richard Jewell, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a posé cette bombe. Et dans la série, on le comprend ce qui s'est passé.
Alors Manhunt Deadly Games, c'est disponible sur Netflix. Et enfin Charlotte, tu nous conseilles une série documentaire, Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children, sur OCS, en complément de la saison 2 de Mindhunters, années 70, Atlanta. Donc des enfants afro-américains commencent à disparaître, la population s'inquiète, la ville est en passe de traverser une crise sans précédent. Bande annonce.
The surveillance on the bridge was covert.
I remember sitting in the car, the radio squelch broke, and I heard something about a splash.
It was 3 a.m.
They looked up on the bridge and they can see headlights.
They had pulled someone over. I said, do you know why we pulled you over? And he goes, yeah, it's got something to do with those missing kids.
July 29th, 1979, police find the badly decomposed bodies of two teenagers.
Next thing you know, another body.
It didn't become the story it should have been until there were 9 young people who were dead. Black children were missing.
Been missing since.
Missing.
Okay, now this is going to get bad.
Alors c'est effectivement la grosse partie qui est extrêmement frustrante dans la saison 2 de Mindhunter, puisqu'il se retrouve à enquêter sur cette affaire dont on ne sait rien dans la série. Est-ce que la série documentaire nous en apprend plus, Charlotte ?
Oui, puis on perd aussi. Après, moi, j'ai un problème avec Mindhunter, c'est que je déteste le héros, donc c'est un vrai problème. Donc, on se débarrasse de ce personnage. Alors, je suis en train de me faire une petite parenthèse personnelle, mais je me rends compte que vous avez raison, c'est la grosse joie.
Je me dis que si les gens enchaînent tes 3 conseils, Charlotte, je pense qu'on est sur une fin de vie. On est sur envie.
On est sur de la grosse stuff. Alors, ce que racontait bien la série, mais que là, on va voir beaucoup mieux, c'est que ces meurtres d'enfants, donc quasiment une trentaine de meurtres d'enfants en 2 ans, la police en avait un peu rien à foutre parce que, on est fin des années 70, c'est des enfants noirs à Atlanta et que la police, ça ne les intéresse pas. Et que c'est la communauté et que ce sont les maires qui vont tout faire pour que cette enquête existe vraiment. Donc, on voit un soulèvement de la population. Ça a été loin. Il y a eu des manifestations, il y a eu de la violence. Ces femmes, elles ont monté leurs propres enquêtes parallèles. Enfin, c'est merveilleux de voir la force des mères, la force des femmes, la solidarité, etc. Donc, ça nous montre encore une fois, mais décidément, moi, je suis obsédée par la société américaine. C'est formidable. Donc, je suis dépressive et américaine en devenir. Ça nous montre comment l'Amérique traite sa population.
Mais Renan,
les inégalités
tu sais...
raciales, les inégalités de justice.
T'allais dire une saloperie.
Oui, j'allais dire, mais ne t'inquiète pas, Renan est misanthrope et il a 90 ans, donc c'est pas, tu vois, tout va bien.
Eh, hein. We Love Série, premier sur les jeunes, ouais. Et la bonne humeur. Tout de suite, Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse.
Les jeunes, mais non,
ouais.
Ça va pas ou quoi? Ça ne marche pas.
Si, si, ça marche bien sur les jeunes, je crois. Sur ça et trois cafés gourmands.
Oh,
ouais, les grands-mères. Allez.
Pourquoi?
C'est quoi le tube de l'été?
Ça suffit. On perd le fil. Charlotte, c'est sur OCS, cette série, on est d'accord?
C'est ça.
Voilà. Et alors, pour terminer.
Ça fait du bien, un petit docu. Hein.
Ouais. Ah bah, surtout celui-là.
Oui, c'est ça. Vraiment, des conseils à voir après la plage avec une pina colada. Un
allez,
truc.
Ceci étant, pour se réjouir un peu et en quelques mots, on va faire un peu plus rapide. Vous m'avez fait aussi une petite sélection de Oldies but Goodies à re-regarder puisqu'ils sont désormais dispo. Renan, en quelques mots, pourquoi regarder Sauvé par le Gong disponible sur Prime?
When I wake up in the morning and c'est le générique, vous vous souvenez?
Again, the man is on time.
Ouais. Voilà, nous avons perdu les seuls gens.
Right.
It's alright. It's alright. And it's made by the bell.
Alors, on a le droit de dire que dans cette série, ils ont tous mal fini quand même.
Attention parce que Glee les bat.
Voilà. Parlons pas de ça. Il y a quand même une femme qui a tourné dans Showgirls. Si ça, c'est pas le pire des avenirs quand même.
Et Screech, il a fait pire. Je crois qu'il a fait du porn.
Ouais, c'est pas tant qu'il ait fait du porn, c'est qu'il a fait du porn cracra.
Ah, d'accord, tu es mieux renseigné que moi.
Tout à fait.
Alors, Sauvé par le Gong, pourquoi? Parce que donc, c'est la sitcom culte des années 80, enfin, fin des années 80.
With Mark Paul Gosselaar.
With Mark Paul Gosselaar et Tiffany Amber Thiessen. Ouais. En fait, à revoir, c'est je pense que ça nous fait.
AC Slater, ça vient de me revenir.
Et Monsieur Belding. je pense que ça nous fait le même effet que nous quand on revoit Hélène et les garçons, c'est-à-dire une sorte d'objet.
C'est la transposition.
Exactement.
Parfaite, c'est
une sorte d'objet complètement kitsch, complètement camp, qui se regarde aujourd'hui au quatrième degré et qui en même temps a son petit charme rétro. Ça raconte donc toujours les aventures de lycéens qui ont 50 ans, qui ont des coupes
qui vont à la cafette,
qui ont toujours des coupes de cheveux parfaites et c'est Zach Morris qui est en fait Ferris Bueller. Hein. On a compris qu'en fait c'est le décalque des grands films de John Hughes des années 80 en série. Alors
mais en moins bien,
évidemment, mais il y a un petit plaisir, il y a un petit truc un peu rétro. Les saisons arrivent sur Amazon Prime Video et comble du kitsch sur Amazon Prime Video, elles sont en VF. Donc on est vraiment sur un plaisir coupable.
Lisa Tortue.
Oh, bah, voilà. Et surtout, je pense que c'est le lookbook parfait pour l'été.
J'ai six panneaux. On rappelle de tous.
L'intello. C'est vraiment le lookbook parfait pour l'été.
Showgirl, la dame qui fait des cochonneries dans une piscine en faisant
des cris improbables. Mais bref, c'est vraiment le lookbook parfait pour l'été, c'est-à-dire que ces gens sont tellement habillés années 80 qu'ils sont à la mode. Voilà, c'est un petit plaisir à revoir.
Je pense qu'il y a un camion Waikiki qui a dû se déverser juste à l'entrée de la série, ils sont tous tombés dessous.
C'est
hein.
Ça, et tous les hipsters sont en friperie dessus.
Ok, tu conseilles également H.
Bah, oui.
Est-ce qu'il y a besoin de développer?
Non, il n'y a pas besoin. Alors après, vraie question, c'est-à-dire H a vieilli. Ok, mais c'est normal. C'est-à-dire, comme Sauvé par le Gong, nous aussi. Mais peut-être d'aller rejeter un œil à ce qui a été peut-être la seule vraie sitcom française, tournée vraiment comme une sitcom, avec, on le rappelle, évidemment, Eric et Ramzy, Jamel, Sophie Mounico, Jean-Luc Bidault notamment. Tous les épisodes sont pas regardables, il y a des choses un peu plus gênantes, il y a un humour qui est un humour des années 90 parfois, c'est quoi, c'est fin 90, début 2000, c'est ça, H. Mais en même temps, il y a l'abattage comique d'Éric Judor qui est vraiment qui est un génie.
Puis
en fait.
Il y a un générique de DJ Abdel.
Voilà. Non, c'est une petite Madeleine, c'est pareil. Je suis pas sûr que les jeunes qui nous écoutent, salut les jeunes, vont vraiment aimer ça, mais si vous avez grandi dans les années 90-2000, H, ça a été quand même forcément important à un moment.
Et enfin, sur Prime, encore. H, c'est sur Netflix, hein, oui. Pardon. Sur Prime, tu conseilles aussi Malcolm.
Ben oui, ben c'est revenu Malcolm. Alors ça, Malcolm, je pense qu'on est d'accord.
C'est comme tu me disais.
Ben oui, mais comment ça marche? C'était qui ça? C'était Michel Chevalet. Allez, bien l'imitation. Malcolm,
le mec s'auto-congratule.
Ben écoutez, sur vous, Madame Roux, que je dois compter sur les compliments. Non, mais Malcolm, c'est parfait. Enfin, c'est vraiment, si vous avez un coup de blues, vous regardez Malcolm.
Si vous aimez Breaking Bad,
et puis surtout, alors je suis pas sûr que voilà, Frankie Muniz est très bien fini lui aussi, mais Dewey, quoi, la danse de Dewey.
On est d'accord que c'était bien, comment il s'appelle et voilà, j'ai plus son nom.
Et c'est moi qui suis une vieille personne.
Heisenberg, qui joue le père.
Oui, bien sûr, c'est vous. Ah. Oui, oui.
Son nom.
C'est Bryan Cranston.
Ah, Bryan Cranston.
Mais
son nom, c'est pas
une fois que vous aurez bingé l'intégralité d'une nounou d'enfer, Charlotte Bloom, toi-même, tu sais.
Oui, merci, c'était formidable. Vous m'avez sauvé la vie, bisous.
Voilà. jetez-vous dans Malcolm. Je crois qu'on a besoin de valeurs refuges.
Moi, j'arrive pas. Hein.
Vous savez, la France a besoin de valeurs refuges.
Non, mais je suis obligée de faire mon faire mon outing. Je peux pas, Malcolm.
C'est vrai.
Ouais, j'arrive pas.
Pourquoi ? T'aimes pas les enfants ?
Ça me fait pas. Ça me.
Mais je crois que l'humour, c'est pas votre truc, Charles. Non.
Fiu. J'aime pas du tout.
Bon, voilà.
Et une nounou d'enfer non plus.
Oh là là. Bon, bref, de la Madeleine, roulez-vous dedans, les valeurs refuges, ça fait du bien. Et surtout, je crois que la sitcom, c'est aujourd'hui ce dont on a besoin et d'y retourner. Et évidemment, Friends, mais est-ce encore besoin de conseiller
et
Friends ?
Si vous voulez pas regarder des sitcoms, mais si vous voulez regarder des séries un peu plus anciennes avec des jeunes gens, regardez Freaks and Geeks. C'est tout ce que j'avais à dire, c'était de la ASMR. Charlotte, quant à toi, tu conseilles ? Bah, marier deux enfants.
Mais moi je suis dans le petit bonbon nouveau, je suis dans la modernité,
qu'on revoit où ?
Je suis dans l'actualité. Qu'on revoit sur Prime comme à peu près tout. Hein,
mais Prime, ils ont fait une razzia sur
du back catalogue.
Ils sont allés chez les pony shops là, les Atout Cash et les trucs comme ça. Ils ont récupéré tous les DVD des gens et ils les ont mis sur Prime. Ils ont tout pris.
Bah ouais, mais en même temps.
Comment s'appelle ces magasins ?
C'est la meilleure idée qu'ils aient eue.
Mais c'est la meilleure idée. Non, mais moi,
Cash
Converters, voilà. Atout Shop.
Cash Converters.
Panta Shop. Oh là 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 là, mais si vous avez ri à cette blague. Merci, déjà. Et surtout, vous avez 70 ans.
Mais surtout, on est content, marié de deux enfants, de revoir Christina Applegate.
Ouais. Bah, Christina Applegate, ouais. Qu'on voit en ce moment, d'ailleurs, dans la saison 2 de Dead to Me. Hein. N'oubliez pas de regarder la saison 2 de Dead to Me, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve génial dans cette sitcom, c'est que c'est quand même l'horreur américaine. C'est-à-dire, marié de deux enfants, le couple et les deux gosses. Tout le monde est méchant. Tout le monde est con.
Tout le monde est laid, surtout.
À moitié, tout le monde, Christina Applegate n'est pas vraiment laide.
Sauf elle.
Peggy, elle est géniale. La mère est vraiment géniale.
Oui, mais on est dans une esthétique
Katie Segal,
quand même...
elle est vulgaire. C'est tout. Il y a de la vulgarité. Il y a de la misogynie crasse. Mais alors, vraiment, des blagues. Moi, j'ai honte de rire.
Et qu'est-ce qu'elle appelle Lorio ? Elle la vit.
Mais ouais, mais grave. Et puis, tu sens qu'on n'a pas réfléchi à faire une famille qui va plaire et qui va intéresser. Non, ouais. Le père est marchand de chaussures. La mère, elle en branle pas une. Elle fait semblant de passer l'aspirateur 27 secondes par jour quand son mari ouvre la porte. Les mômes sont horribles. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent de poche, tirer leur coup si c'est possible un jour ou l'autre.
Et
les voisins. Les voisins
qui attendent.
Et on est d'accord que le chien, il est pris à pic, non ? Le chien, il est pris à pic, je crois qu'il veut... Si, le chien, il est obsédé, le chien est obsédé sexuel, dans mon souvenir. Ou c'est moi qui fantasme un truc bizarre.
Mais est-ce que tout le monde est obsédé sexuel dans tes souvenirs,
mon cher ? Je sais, c'est... Vaste question.
Bon, en tout cas, c'est hilarant, marié deux enfants. C'est vraiment l'humour de l'époque. Hein, comme on le disait, c'est une série très récente, puisqu'elle date de 1987. Mais moi, je me souviens que quand
j'étais ado... Série, premier sur les conseils.
Mais quand j'étais ado, elle me faisait rire, comme une nounou d'enfer. Mais aujourd'hui, elle me fait pleurer de rire.
Et pour
parce
terminer...
Des doubles sens. Pardon, vas-y.
Non, vas-y, termine ta phrase.
Non, parce que l'humour d'adulte, c'est quand même autre chose. C'était tout, voilà.
Tout à fait. Et enfin, pour terminer, tu nous conseilles un petit guilty pleasure ? Brothers and Sisters.
Oh, c'est trop bien.
Sur Prime aussi ?
Voilà.
Sur Prime aussi ?
Oui, je crois.
Je dis, Cash Converter, ils ont tout pris et ils l'ont mis sur leur serveur.
Brothers and Sisters, c'était un peu la série de la seconde chance d'Ali McBeal, on est d'accord. Hein. C'est bien celle-là.
Ouais, c'est celle-là.
Ouais, mais pas que. Alors là, qu'on est dans une espèce de folie Matthew Reeves, là, tout le monde est amoureux de lui maintenant, entre Perry Mason et The Americans. C'est aussi avec Matthew Reeves, avec Rob Lowe, avec Sally Field. Enfin, il y a un cast complètement fou.
Le cast est fabuleux.
Et c'est vraiment la saga familiale en 5 saisons, avec que des soucis, qui commence à la mort du père, qui cache plein de secrets, la famille qui a une entreprise familiale à sauver. Enfin, le point de départ est complètement cliché, mais vraiment, aujourd'hui, voir une saga familiale avec les histoires d'amour, les histoires de jalousie, la mère qui pète un câble, qui fait sa crise de la cinquantaine, tous les enfants s'en foutent, elle est horrible en plus, Sally Field, c'est vraiment la mère, elle est insupportable. Rob Lowe qui est beau à mourir comme d'habitude.
Et il y a, sans trop en révéler, il y a un personnage caché qui apparaît.
Absolument.
Et voilà, ça c'est
absolument
vraiment fabuleux. C'est une série qui fait beaucoup pleurer.
C'est un fantôme ?
Ah, on dit pas. Elle est dans le placard. Coucou, hop, c'est moi. Elle sort. Non, c'est une série très émouvante surtout. Et c'est vraiment, je vais faire hurler, moi je trouve que c'est tout ce que... Tout ce tout ce qui m'ennuie de plus en plus dans This Is Us était réussi dans Brothers and Sisters. C'est-à-dire cette sensation.
Mais Brothers and Sisters faisait pas, n'était pas du tout là pour nous faire chialer notre race.
Ah, moi j'ai pleuré ma vie devant Brothers and Sisters. Hein.
Non, mais t'as pas pleuré toutes les minutes. Moi, This Is Us, j'en peux plus. C'est-à-dire, je finis
ouais,
avec
ça me fatigue,
les yeux
moi.
De lapin.
Moi, ça me fatigue, This Is Us.
Alors, je voulais juste vous dire que, le comédien de This Is Us,
ouais.
Milo,
oui.
C'est le sosie de mon frère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Réagissez au 0145.
Et c'est ainsi que je vais terminer cette édition pré-été de
Milo.
Ah là
là,
ouais. Parce qu'il faut toujours se la tartiner un peu. Ouais, mon frère est le sosie de Milo Ventimiglia.
Eh bien, et le 06 est à retrouver.
Et alors quoi merci à tous les deux.
Est-ce que tu as toujours mon numéro de téléphone pour le donner à ton frère?
Est-ce que tu l'as toujours ton frère? Bah ouais, j'ai sûr.
Oh, le truc glauque. Oh là là. Oh, on était sur la joie, on est retombé dans le glauque. Voilà.
Mon petit frère, alors quoi. Merci Charlotte Bloom, passe un bel été. Merci Renan Crowe. Pardon.
Sachez quand même que je le dis aux auditeurs, on s'aime beaucoup avec Charline. C'est un jeu, c'est un personnage acting en fait.
Vous pouvez évidemment donner vos avis.
Cette femme est horrible. Cette femme fait du mal aux animaux et aux enfants.
Sur le compte Instagram de We Love Cinéma FR ou sur le hashtag We Love Série sur Twitter. Rendez-vous à la fin de l'été. D'ici là, retrouvez We Love Série sur We Love Cinéma et surtout les agrégateurs de podcasts. Moi aussi, je te déteste. Tu m'énerves.
Arrête,
c'est toi. Charlotte, non, c'est toi, tu raccroches. Non, toi, c'est toi, tu raccroches.
Chut. Bisous les copains.